Bonjour, et je voudrais d'abord dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et je remercie donc les organisateurs de la journée qui m'ont invité et j'espère que je vais apprendre beaucoup de choses. Quand j'ai demandé à Renaud ce qu'il attendait de moi pour cette table ronde, il m'a dit bon, en particulier, il pourrait être intéressant de montrer sur le cas des mathématiques en quoi et pourquoi l'histoire peut nourrir les recherches et la formation, mais aussi peut-être en quoi la didactique peut constituer un support à la compréhension de l'histoire de la discipline. Donc, c'est à ces questions que j'ai essayé de réfléchir en préparant cette contribution. Mais pour la situer, je crois qu'il me semble important de préciser effectivement d'où je parle. Et à part de quelle expérience s'est nourrie cette intervention. Alors donc, je suis, comme l'a dit Renaud, je suis ici en tant que didacticienne des mathématiques, et en tant que didacticienne, et c'est mon domaine de recherche. Et en tant que chercheuse dans ce domaine, j'ai toujours pensé qu'un regard épistémologique et historique sur les mathématiques, sur leur enseignement, était utile, sinon nécessaire aux didacticiens. Donc je me sens parfaitement à l'aise, je dirais, ici. Ça m'a conduite à interagir très régulièrement avec des historiens et des épistémologues. J'ai commencé à interagir d'abord avec Jean-Luc Verlet, que je pense certains d'entre vous connaissent, beaucoup d'entre vous connaissent. Et nous avons créé ensemble, au milieu des années 80, un enseignement de didactique et d'histoire des mathématiques dans la maîtrise de mathématiques de Paris 7. Ça correspondait à un quart de l'enseignement de cette maîtrise, donc c'était un gros enseignement. Et puis, plus récemment, j'ai collaboré beaucoup avec Michel Serfati dans l'encadrement de deux thèses, celle de Véronique Batty, qui a été d'ailleurs recrutée à Lyon, et celle de Caroline Bardini, qui a été recrutée à Montpellier. Et puis, je suis par ailleurs responsable d'un master de didactique, où dans le parcours recherche, le tronc commun aux trois spécialités, mathématiques, sciences physiques et chimiques, géographie et histoire, comporte une part importante, enfin importante pour nous, vu le volume total des enseignements, puisque c'est 20 heures qui sont consacrées à une introduction à la philosophie et l'épistémologie de sciences, qui au départ était assurée par Dominique Lecourt, maintenant est assurée par Jean-Jacques Chessignard. Et dans ce module, il y a depuis l'année dernière un enseignement aussi d'histoire une introduction à l'histoire de l'enseignement qui est assurée par Hélène Gispert. Voilà. Et puis, comme l'a rappelé Renaud, au sein de l'école doctorale ED400, j'ai essayé de contribuer avec d'autres historiens, épistémologues et didacticiens à ce que les relations entre histoire et didactique ne soient pas seulement des relations à sens unique, de l'histoire vers la didactique, et car il semble plus facile aux didacticiens de percevoir ce que peut leur rapporter le contact avec l'histoire et l'épistémologie que le sens inverse. La genèse du champ didactique, sa reconnaissance institutionnelle qui sont encore limitées quand on compare avec l'épistémologie et l'histoire des sciences, n'y sont sans doute pas étrangères, mais dans les journées de notre école doctorale, alors elles ont été créées en 2002, donc il y a eu beaucoup de journées maintenant, et il y a eu trois ouvrages qui ont été produits, donc j'en ai amené juste un, celui qui pouvait nous intéresser plus directement ici, et nous essayons de tisser patiemment ces liens. Annie peut en témoigner puisqu'elle est intervenue, Alain Bernard cet après-midi aussi pourra le faire. Ce n'est pas si facile que ça, quand même. Donc, justement, en réfléchissant à cette contribution, je suis partie, il semble relativement facile à un didacticien de percevoir l'intérêt d'un travail historique et épistémologique. Et il y a cela de nombreuses raisons, et je vais me limiter ici à trois, parce que Renaud a dit qu'il fallait pas parler plus de 15 à 20 minutes. Donc, la première qui me paraît essentielle, c'est celle de questionner l'épistémologie scolaire. Pour moi, elle a été toujours très forte. Parce que en tant que didacticien, on est confronté, nous sommes confrontés de par la nature de nos travaux essentiellement au monde scolaire. Et nous ne pouvons pas accepter sans la questionner la vision des savoirs, des œuvres, dirait Yves Chevallard, que le monde scolaire nous propose. Et si je considère les savoirs mathématiques, ce que je connais le mieux, ils sont dans l'enseignement le plus souvent coupés des questions et des problèmes qui ont conduit à leur émergence. Ils sont coupés de leur histoire dans une reconstruction qui se veut à la fois logique, actuelle et économique. La logique de l'objet y prime sur celle de l'outil, selon la distinction qui a été introduite en didactique par Régine Douady. Et il me semble que, je ne suis pas la seule, que le travail didactique suppose la mise à distance de ces naturalisations. Et c'est vrai que l'histoire et l'épistémologie y contribuent de façon essentielle pour nous, parce qu'elles nous permettent de remonter des œuvres mathématiques que l'école demande de faire rencontrer aux élèves, sous leur forme actuelle, aux raisons et questions qui les ont motivées, de comprendre l'évolution des problématiques et des idées, de penser les connexions entre les domaines et les disciplines. Et c'est particulièrement important en mathématiques où la discipline est souvent perçue par ses acteurs, au moins au niveau de l'enseignement, comme un peu isolée. Et je crois que la recherche didactique illustre particulièrement bien cet usage de l'histoire et de l'épistémologie. Par exemple, dans la théorie des situations didactiques, une notion clé est la notion de situation fondamentale par rapport à un savoir. Et on ne peut pas penser la recherche de situation fondamentale sans une quête épistémologique. Par ailleurs, si on regarde les ingénieries didactiques, il y a beaucoup d'ingénieries didactiques qui ont été développées en s'appuyant sur des situations historiques et en les adaptant pour l'enseignement. Je pense par exemple aux travaux initialement développés dans l'environnement sous la direction de Nicolas Rouche à Louvain-la-Neuve, mais qui ont été prolongés ensuite par différents chercheurs. Mais bon, il y en a de nombreux autres exemples. Donc ça, pour moi, c'est une première dimension. La seconde, c'est de nous aider à comprendre les difficultés des élèves et envisager les moyens de les surmonter. Et là aussi, l'étude historique est importante parce que ce qu'elle nous apprend sur les difficultés rencontrées dans l'élaboration des savoirs et la façon dont elles ont été, ces difficultés ont été historiquement surmontées. Bon, bien sûr, ça ne signifie pas que les mêmes difficultés doivent se rencontrer nécessairement dans les apprentissages actuels, indépendamment en plus des contextes culturels. Je crois que nous n'avons plus cette naïveté si nous l'avons eue à un moment. Et je renvoie par exemple d'ailleurs à la critique virulente qu'a fait Gert Schubrin, qui est un historien de l'éducation, sur les visions de l'enseignement des mathématiques inspirées par le principe génétique. Donc il a beaucoup travaillé sur ce qui se passait en Allemagne, bien sûr, puisqu'il est allemand, et puis ensuite sur les résurgences de ce type de vision de l'éducation au moment des années 60 aux États-Unis. Mais je crois que même si il faut prendre ces différences en compte, dans ce domaine aussi, le regard historique crée pour nous une référence très utile et contribue à l'intelligibilité des processus d'apprentissage. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la notion d'obstacle épistémologique a eu un tel impact dans les travaux didactiques, y compris en mathématiques, alors que Bachelard avait exclu explicitement les mathématiques de son propos dans la formation de l'esprit scientifique notamment. Donc ça, c'était le second point. Et le troisième, qui renvoie davantage à l'histoire de l'enseignement, c'est comprendre l'enseignement actuel et envisager des moyen d'action pour l'améliorer. Parce que pour comprendre cet enseignement, il faut comprendre les systèmes de conditions et de contraintes qui le façonnent aux différents niveaux de ce que Chevallard appelle la hiérarchie des niveaux de codétermination. Mais ces systèmes de conditions et contraintes s'inscrivent dans une double histoire, celle des disciplines et celle de leur enseignement, qui elle-même s'inscrit dans une histoire sociale et culturelle. Donc c'est dans ce domaine aussi, nous avons besoin des travaux sur l'histoire de l'enseignement des disciplines, et nous nous en servons, même si, par ailleurs, nous avons nous-mêmes développé ou contribué à développer des constructions qui sont originales, comme par exemple tout ce qui est développé autour de la théorie de la transposition didactique depuis une trentaine d'années, et maintenant dans le cadre de l'approche anthropologique. Alors ça, c'est un premier point, mais je voudrais dire, s'il est aisé aux didacticiens de reconnaître les besoins épistémologiques et historiques, la question de la satisfaction de ces besoins n'en est pas pour autant résolue. Et ceci nous rapproche d'ailleurs de la question de la formation des enseignants qui est au cœur de ces journées. Comme je l'ai dit, histoire, épistémologie d'une part et didactique d'autre part sont des champs scientifiques bien différenciés, Renaud aussi l'a rappelé au début, dans leurs problématiques, dans leurs méthodes, dans leurs histoires institutionnelles. Et d'ailleurs, ça se reflète bien dans les affiliations des chercheurs respectifs. Vous êtes en 25e pour les mathématiques, en mathématiques pures, en 72e. Nous sommes en 26e, mathématiques appliquées, application des mathématiques, et en 70e pour certains d'entre nous. Donc, pour le CNU. Et je crois que même s'ils se lancent pour satisfaire leurs besoins dans une enquête historique, rares sont les didacticiens qui mèneront un travail susceptible d'être reconnu par l'autre communauté. Il existe bien sûr quelques exceptions. Et par exemple, je pourrais citer le travail de Jean-Luc Daurier sur l'histoire de l'algèbre linéaire, quand il essayait de s'interroger sur la dimension fugue, nous disons, didactique, à la suite d'Aline Robert, formalisatrice, unificatrice, généralisatrice des concepts clés de l'algèbre linéaire, comme l'axiomatique des espaces vectoriels ou la notion de dualité. Mais de tels travaux sont, je dirais, l'exception qui confirme la règle. L'enquête historique ou épistémologique du didacticien, même si elle se révèle suffisante à ses besoins didactiques, elle est vue en général comme une enquête d'amateur par le professionnel, et sa suffisance n'est pas forcément comprise, même si elle est réelle. Mais au-delà de ces questions de légitimité et de reconnaissance qui ne sont en elles-mêmes que, je dirais, que moyennement intéressantes, ce qui est plus profondément en jeu, me semble-t-il, c'est la spécificité des besoins du didacticien. Parce que l'enquête historique n'est pas pour lui ou elle un but en soi, elle est assujettie à une autre enquête, l'enquête didactique, par rapport à laquelle elle prend sens et dont l'économie propre lui impose ses limites. Je vais juste prendre deux brefs exemples issus de ma propre expérience. Quand j'ai voulu étudier, par exemple, les conditions d'un enseignement des équations différentielles au début de l'université qui respecte mieux l'épistémologie du champ, à un moment où j'étais moi-même en maths chercheuse dans ce domaine, et je voulais faire une place à la résolution géométrique ou qualitative, j'ai vraiment éprouvé le besoin de comprendre pourquoi l'enseignement universitaire oubliait jusque-là l'existence de cette résolution géométrique et qualitative en dehors des cours les plus avancés de niveau maîtrise ou DEA. Et à ce moment-là, les travaux historiques qui existaient dans ce domaine, en particulier ceux de Christian Gillin, ils ont répondu à mes questions. Et je n'ai pas cherché davantage. Ça m'a suffi pour baser mon travail didactique. En revanche, lorsque j'ai travaillé avec des didacticiens de la physique, notamment Laurence Viennot et Edith Saltiel, sur l'enseignement des procédures différentielles et intégrales, et nous avions constaté à cette époque à quel point cet enseignement était insatisfaisant, à la fois en mathématiques et en physique, même s'il était très différent dans les deux disciplines, là je n'ai pas trouvé les ressources que je cherchais dans la littérature existante, et donc j'ai essayé de développer ma propre enquête à partir de différentes sources. Alors j'ai beaucoup utilisé la revue l'enseignement mathématique parce qu'elle me donnait à voir des débats sur ces questions très intéressants et toujours d'actualité qui s'étaient déroulés au début du XXe siècle. J'ai utilisé une enquête internationale de la Commission internationale de l'enseignement des mathématiques, menée entre 1911 et 1914, quelques traités de référence qui étaient cités dans ces études, les travaux de Fréchet qui aboutissaient à la notion générale de différentiel, et puis bien sûr les programmes successifs de l'enseignement secondaire et des classes préparatoires aux grandes écoles depuis la grande réforme de 1902. Et puis mon enquête s'est arrêtée quand j'ai eu l'impression que j'étais suffisamment outillée pour le travail didactique dans lequel j'étais engagée. Je ne crois pas du tout avoir fait travail d'historien. Et je dirais que le didacticien ne fait pas œuvre d'historien, sauf exception. Il peut, dans certains cas, effectivement, pour répondre à ses besoins, mener ses propres enquêtes, mais plus j'avance, plus je me dis que ceci ne remplace en rien les échanges et les collaborations nécessaires entre communautés et le travail codisciplinaire. Et c'est ce qu'il me semble le plus important aujourd'hui de développer. J'ai eu l'occasion de vivre personnellement ce type de travail dans le co-encadrement de thèse avec Michel Serfati. Et c'est aussi celui que nous essayons d'amorcer dans les journées de l'école doctorale, ou alors avec la formation d'histoire des sciences du master professionnel didactique, qui est piloté par Alain Bernard, Renaud Chorlet et Cécile de Hausson, qui est didacticienne de la physique. Et c'est une formation, c'est une unité d'enseignement toute récente, hein, elle se cherche encore un peu, mais nous essayons de faire que les enseignants qui suivent ce master et qui sont de futurs formateurs d'enseignants combinent une sensibilité historique et une sensibilité didactique pour développer un projet d'enseignement ou de formation en mathématiques ou en sciences physiques. Ce n'est pas si facile que ça, mais en fait, c'est le projet que nous nous sommes donnés. Et je crois que c'est à travers ce type de rencontre, de collaboration sur la recherche de réponses à un défi partagé, que l'on peut concevoir l'idée que des chercheurs en histoire et épistémologie peuvent aussi gagner à fréquenter la didactique. Car je suis convaincue, personnellement, sans être ni historienne ni épistémologue, qu'ils ont à y gagner. En particulier, s'ils souhaitent s'engager dans une ingénierie de formation des enseignants qui soit plus qu'une entreprise culturelle. J'ai été jusqu'à janvier dernier présidente de la Commission internationale d'enseignement des mathématiques et un des groupes les plus anciens affiliés à cette commission, c'est le groupe HPM, Histoire et Pédagogie des Mathématiques. Les travaux qui y sont menés depuis plus de 30 ans sont très intéressants. Mais ils sont quand même encore trop souvent des plaidoyers pour l'utilisation de l'histoire dans l'enseignement des mathématiques, assortis de propositions ou de réalisations, dont les effets sont peu évalués, ou dont les ressorts du succès, quand le succès est constaté, restent assez obscurs. Et d'ailleurs, les présidents successifs de cette commission le reconnaissent et le déplorent eux-mêmes régulièrement. Il me semble que combiner les connaissances apportées par la recherche épistémologique et historique au sens large, en y incluant l'histoire de l'enseignement, avec les connaissances qui sont apportées par la didactique sur la construction de tâches, sur les difficultés des élèves et leur mode de raisonnement, sur les interactions enseignants-élèves au sein de la classe, sur les pratiques enseignantes et leurs déterminants, sur l'écologie des savoirs scolaires, est quelque chose qui pourrait aider aujourd'hui à dépasser cette situation et faire que les connaissances historiques et épistémologiques constituent plus qu'un vernis dans la formation des enseignants. Et pour terminer cette contribution, je voudrais aussi souligner que certaines évolutions de la recherche didactique me paraissent favoriser les rapprochements entre les deux communautés au-delà de la seule collaboration dans la formation des maîtres. Et je vais citer juste deux types de travaux de ce point de vue. Le premier type, ce sont les travaux didactiques sur la comparaison des cultures d'enseignement qui se sont développés en didactique à la suite des évaluations internationales comme TIMSS, PISA, avec l'ambition de dépasser ce qu'elles offraient et aussi de questionner les interprétations simplistes et les usages abusifs qui en étaient souvent faits. L'étude ICMI de la Commission internationale sur l'enseignement des maths, connue sous le nom raccourci de East-West Study, qui fait la synthèse de travaux qui concernent les cultures d'enseignement de pays asiatiques de tradition confucéenne d'une part et de pays dits occidentaux, je trouve, en est un bon exemple. Et je pense que les questions qui sont à l'origine de ces travaux, les phénomènes qu'ils mettent en évidence, rejoignent des questions qui sont d'actualité et des phénomènes qui sont mis en évidence par les historiens qui travaillent sur la diversité des traditions mathématiques suivant les cultures. Et j'en veux par exemple les discussions qui ont été soulevées par la conférence de Karine Chebla, à la conférence qui était associée à l'étude ICMI, cette fois sur preuves et processus de preuves en mathématiques à Taïwan en mai 2009, où ces rapprochements, effectivement, entre nos perspectives étaient très perceptibles. Le second type de travaux qui me semble susceptible de bien favoriser les rapprochements, ce sont tous les travaux qui concernent la dimension sémiotique de l'activité mathématique, car ils se sont très fortement développés dans la dernière décade en didactique des mathématiques et avec des références épistémologiques et philosophiques qui, je pense, sont familières aux chercheurs de ces domaines, qu'il s'agisse de Frege, de Peirce, de Cassirer et de Wittgenstein et d'autres. Cette dimension sémiotique était d'ailleurs au cœur de la thèse de Caroline Bardini, puisqu'elle s'interrogeait sur les visions du symbolisme algébrique portées par les travaux didactiques d'une part, les travaux épistémologiques d'autre part, et puis qu'elle a cherché à mettre leur complémentarité en synergie pour penser l'apprentissage et l'enseignement de ce symbolisme algébrique. Et dans le court encadrement de la thèse, qui a été un réel plaisir pour Michel Serfati et moi-même, c'était aussi dû à la qualité de la thésarde, je le dirais, nous avons bien perçu à quel point les questionnements didactiques et épistémologiques rebondissaient l'un sur l'autre et comment ce rebondissement nous enrichissait mutuellement. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ajouterai simplement qu'une telle collaboration n'est possible et enrichissante que si chacun accepte que l'autre ne devienne pas un spécialiste de son propre domaine, ce qui est franchement impossible vu l'état de développement des domaines. Aide l'autre à étudier, à apprendre ce qu'il est nécessaire d'apprendre pour que la collaboration soit productive. Et si l'on quitte, je dirais, le domaine de l'échange de positions et d'idées pour s'atteler ensemble à la résolution de tâches d'intérêt partagé. Et je pense que la formation des maîtres et des formateurs est certainement une tâche qui peut mobiliser ces énergies et avoir un peu d'enthousiasme.